Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC, je dis foncer, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Aujourd'hui, on prend une grande inspiration, on part tranquillement en balade et on va chercher des champignons. Je vais vous parler des forêts françaises. Ah, la forêt, l'odeur des sous-bois, ces arbres centenaires, les randonnées en montagne, mais aussi la déforestation, l'urbanisation, les coupes rases, c'est-à-dire le fait de couper entièrement les arbres d'une parcelle. Eh bien, croyez-le ou non, la déforestation, ça ne concerne pas vraiment l'Hexagone. En France, il y a de plus en plus de forêts. Et ça, depuis deux siècles.
On note que depuis 1820, la surface a été multipliée par deux. Elle couvre actuellement environ 30% du territoire. Elle a pris 700 000 hectares depuis une dizaine d'années environ.
Lui, c'est Philippe Delacote. Il est économiste au laboratoire Beta à Nancy et il est spécialiste d'économie de l'environnement. Et travaille notamment sur les forêts. Il nous explique pourquoi la forêt française gagne du terrain.
La grosse raison derrière ce reboisement, c'est une grande partie, c'est la déprise agricole en fait. C'est le fait que le secteur agricole, il y a deux dynamiques qui se combinent. Il y a premièrement l'intensification de la production agricole qui fait qu'on produit plus sur des surfaces moindres. Et puis il y a également la perte d'importance du secteur agricole en France. Donc on note que depuis les années 50 environ, il y a environ 900 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent par décennie. Moi j'ai le souvenir de mon grand-père qui je suis d'origine vosgienne, qui disait quand il était gamin, les collines autour de chez lui c'était que des champs ou surtout des pâturages, et aujourd'hui c'est complètement couvert de forêts. C'est vrai que la déprise agricole c'est une grosse source de reboisement.
La déprise agricole c'est quoi ? C'est l'abandon définitif de l'activité de culture ou d'élevage sur un territoire. Et donc, même si les villes gagnent du terrain, les forêts françaises s'agrandissent. Au total en France, il y a 25 millions d'hectares de forêts. 17 millions sur le continent et 8 millions de forêts vierges en Guyane.
Ah bah je vois, on va y aller tout seul avec Marcel alors. Allez Marcel, en Guyane, dans la forêt. Et dur de la feuille.
En Guyane, la forêt occupe 96% du territoire, avec des espèces comme le fromager, qui peut atteindre 60 mètres de haut. Les forêts de Guyane sont appelées forêts vierges parce qu'elles fonctionnent sans l'intervention, passée ou présente, d'êtres humains.
Car nous sommes dans une des très rares forêts françaises où l'homme n'intervient jamais, où la nature n'en fait qu'à sa tête. Et d'ailleurs, c'est pas très rassurant car on peut se prendre un arbre sur la tête à tout moment.
En revanche, dans l'Hexagone, il n'y a plus de forêts vierges depuis très longtemps. Elles ont été reboisées, déboisées, parfois créées de toutes pièces, entretenues, puis de nouveau abandonnées. Moi, en tant que citadin qui connaît assez mal le sujet, je pensais qu'une forêt qu'on laisse pousser toute seule se débrouille, et pousse de plus en plus.
La thérapie par les arbres, les serrer dans ses bras, les toucher, les sentir, en quelque sorte se reconnecter à la nature. L'image comme ça peut faire sourire, mais pour ces touristes parisiens, cette médecine douce n'est pas en bois.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces forêts poussent mieux quand on les accompagne. En éclaircissant le sous-bois, c'est-à-dire en permettant aux petits arbres d'accéder à la lumière, par exemple. Ça a attisé notre curiosité dans l'équipe de Splash. Si la forêt gagne du terrain, c'est qu'on ne coupe pas beaucoup de bois. Pourquoi ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas en couper plus ? Pour commencer à répondre à cette question, il faut savoir qui possède les forêts françaises. Il y a trois propriétaires possibles. L'État. C'est là qu'on parle de forêts domaniales. Il y en a de superbes et de très connues, comme celle de la Londres-Ouvray à côté de Rouen ou celle de Belouve à La Réunion. C'est l'ONF, l'Office National des Forêts, qui les gère. Les collectivités locales, souvent les communes. On parle alors de forêts communales. Elles sont également publiques et peuvent être également gérées par l'ONF si les communes le lui délèguent. Dans ce cas, le tarif est de 2 euros par hectare par an, ainsi que 10 à 12% des recettes issues de leur exploitation. C'est ce qu'on appelle des frais de garderie. Dans les forêts publiques, on planifie autant que possible la gestion de la forêt sur le long terme. On prévoit sur 15 à 20 ans, quand on coupe, quand on reboise, quelle parcelle et pour quelles raisons. Troisième propriétaire possible, les propriétaires privés. Là, c'est plus compliqué. Certains sont des sylviculteurs. Ils exploitent une forêt clairement plantée pour produire du bois. Du petit bois pour faire de la pâte à papier ou de l'énergie en le brûlant, ou encore du gros bois pour la menuiserie. Mais la plupart des propriétaires de forêts ont de toutes petites parcelles, très morcelés. Parfois même, ils ne savent pas qu'ils sont propriétaires d'un hectare de forêt.
C'est assez troublant. Je vous avoue que quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça me tombe dessus ?
Souvent, ça vient du fait que si vos parents possèdent un bout de forêt, vous et vos frères et sœurs en hériterez. Si un arrière-arrière-arrière-grand-père agriculteur a laissé pousser du bois sur quelques hectares, vous pouvez vous retrouver propriétaire d'un bout minuscule de forêt.
Sur les forêts privées, un gros point qu'il faut avoir en tête, c'est le très grand morcellement de la propriété forestière française. Donc on a un très grand nombre de petits propriétaires qui ont des surfaces qui sont très faibles, ce qui fait que très souvent, ce sont des forêts qui sont peu ou pas gérées, puisqu'il faut avoir une surface minimum pour que les propriétaires forestiers aient l'obligation d'avoir un plan de gestion de leur forêt. Donc, il y a une grande partie de la forêt française privée qui est en gros non gérée et qui est laissée, qu'on laisse pousser, si bien qu'on considère qu'il est souvent considéré que la forêt française est sous-exploitée.
Une forêt sous-exploitée, là encore, ça peut vous faire penser à de jolies images de nature vierge qui produit de beaux arbres habités d'oiseaux et d'écureuils. En réalité, des parcelles sur lesquelles la végétation pousse toute seule, ça donne plutôt des arbres maigrichons, qui ont du mal à pousser, envahis de broussailles. Et ça peut même devenir dangereux. Les forêts non entretenues s'enflamment plus vite, et l'incendie est plus difficile à éteindre s'il n'y a pas de route forestière. Pour éviter ce genre de problème, les pouvoirs publics encouragent de plus en plus les propriétaires à se regrouper en syndics, pour gérer leurs propriétés ensemble, partager les frais et planifier les coupes ou les reboisements. Mais c'est encore très minoritaire. Pour cette raison, un rapport de Terra Nova rédigé en 2018 par Henri Prévost qualifie l'économie de la forêt privée de belle au bois dormant.
Votre Altesse !
Il y a peu d'utilisation du bois parce que peu d'incitations à en tirer un revenu régulier. Car si vous êtes propriétaire d'une toute petite parcelle, il faut que vous attendiez des dizaines d'années avant de pouvoir couper des arbres suffisamment grands pour être bien vendus. Et ensuite, il faudra de nouveau attendre des dizaines d'années pour qu'ils repoussent. Comme je vous le disais tout à l'heure, les forêts de l'Hexagone ont besoin d'intervention humaine dans leur entretien. Philippe Delacote nous explique.
Ici, il y a un petit peu deux chapelles qui s'opposent, hein, sur l'exploitation du bois. Il y a un peu cette chapelle qui dit, notamment chez les écologues, hein, qui dit qu'il faudrait intensifier l'exploitation du bois en forêt parce que, étant donné qu'elle est sous-exploitée actuellement, on va avoir la ressource forestière française qui va, les arbres vont atteindre des volumes et des âges trop importants. Si bien qu'au final, le puits de carbone forestier, il va finir par saturer, parce qu'une fois que les arbres arrêtent de grandir, bah, d'une certaine manière, ils séquestrent moins de carbone. Donc, il y a toute une famille des chercheurs qui travaillent autour de la forêt en France qui sont plutôt pour une intensification de l'exploitation.
Si on suit ce raisonnement, on peut déplorer que l'on ne coupe pas davantage d'arbres dans les forêts françaises. En effet, chaque année en France, on coupe moitié moins de bois que ce qui a poussé en un an. Selon l'IGN, l'Institut Géographique National, qui est en charge de l'inventaire forestier, on coupe 45 millions de mètres cubes par an, alors que poussent 92 millions de mètres cubes. Il y a aussi un peu moins de 9 millions de mètres cubes de bois qui meurent naturellement. Mais d'autres chercheurs trouvent que c'est plutôt une bonne nouvelle, toujours selon Philippe Delacote.
Et puis, il y en a d'autres qui sont davantage dans une optique de conservation. Alors, en partie, il y a notamment une grosse... Il y avait une lettre ouverte, notamment... à Joe Biden et puis à la Commission européenne qui suggérait davantage de mettre davantage de poids sur le puits de carbone forestier plutôt que sur l'exploitation dans la lutte contre le changement climatique pour tout un ensemble de raisons qui sont assez complexes. Mais disons qu'il n'y a pas du tout de consensus par rapport à ça. Alors personnellement, moi, l'optique que j'ai, c'est qu'en fait, du fait de ces multiples services écosystémiques et de cette multifonctionnalité des forêts, ce qui me semble important, c'est d'avoir pas forcément une spécialisation des forêts, mais disons que certaines forêts soient focalisées sur l'exploitation, et c'est déjà le cas, par exemple, dans le Sud-Ouest. Ça peut avoir du sens parce que justement, le bois a certaines vertus. Hein, la consommation du bois permet, par exemple, de se substituer à d'autres produits dont la production est plus polluante. Donc, par exemple, si vous achetez des meubles en bois ou des fenêtres en bois ou des structures en bois pour faire les bâtiments, ça vous permet d'utiliser moins de PVC, moins de béton et moins de produits qui ont davantage d'impact environnementaux. Donc, il y a un vrai, il y il y a un vrai intérêt à utiliser ces produits.
Pour Philippe Delacote, certaines forêts sont avant tout des puits de carbone, c'est-à-dire des réservoirs qui absorbent du carbone et contribuent à diminuer la quantité de CO2 planétaire. Et des réservoirs de biodiversité, avec des essences rares et un habitat pour des espèces à protéger.
30% d'oiseaux en moins en quelques années. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. La semaine dernière, le dernier grand mâle du rhinocéros blanc du nord de l'Afrique a disparu. Mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche.
Mieux vaut ne pas les traiter comme un réservoir de bois à couper dès que l'on peut. D'ailleurs, les forêts les plus remarquables, les plus anciennes, sont souvent des forêts domaniales et gérées comme un patrimoine à conserver.
Et puis, à côté de ça, il est important d'avoir des zones de conservation assez importantes dans lesquelles on privilégie plutôt la partie puits de carbone et biodiversité. À l'échelle de la France, c'est quelque chose qui est fortement possible parce qu'on a la chance d'avoir une forêt qui est assez fortement diversifiée. Les espèces forestières sont relativement variées pour des forêts tempérées. Il y a notamment une grande partie de feuillus qui sont disponibles. Il y a également toutes les forêts de montagne qui sont assez difficilement exploitables parce que il y a des coûts d'exploitation qui sont un petit peu importants. Et donc cette variété des forêts françaises, à mon avis, permet une assez grande multifonctionnalité de ces forêts, de pouvoir faire à la fois de l'exploitation dans un certain nombre de cas, et donc de profiter de cet intérêt de substituer à des produits polluants du bois, et puis d'un autre côté avoir des forêts plutôt de conservation dans lesquelles on se focalise sur d'autres services écosystémiques que la production.
Mais alors, comment on pourrait mieux valoriser cette ressource importante laissée à l'abandon? Si je raisonne comme un économiste...
Je crois qu'il suffit de rester attentif aux taux évalués au jour le jour sur l'emprise des fixations monétaires à court, moyen et long terme. D'accord. Et les résultats ne peuvent être que satisfaisants.
Je vais rapidement me poser la question de ce que signifie « valoriser ». Et la réponse n'est pas simple, parce qu'en dehors du bois, les services rendus par la forêt peuvent être difficiles à évaluer. Philippe Delacote.
Et pour ça, il y a tout un ensemble de méthodes d'évaluation des services écosystémiques qui sont possibles. Et notamment en France, il y a un projet qui s'appelle EFES, qui a pour objectif de recenser un petit peu tous les travaux d'évaluation des services écosystémiques, en particulier sur les forêts.
Commençons par la séquestration du carbone, dont on a parlé tout à l'heure. Elle joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Comment calcule-t-on sa valeur?
Là, c'est entre guillemets relativement facile, puisqu'il y a une connexion assez immédiate entre le volume de bois sur pied et puis les volumes de carbone. Donc pour ça, les inventaires forestiers, c'est notamment l'IGN en France qui est responsable des inventaires forestiers, c'est une source de données cruciale. Et donc on peut estimer par exemple que le puits net de séquestration du carbone, il est environ de 130 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Donc ça, c'est une évaluation sur laquelle on a des degrés un degré de confiance qui est relativement important. Et puis, voilà, il y a tout un ensemble d'autres services écosystémiques qui sont un petit peu plus difficiles à évaluer. Il y a les produits forestiers non ligneux que vous avez mentionné. Donc, ça peut être par exemple les champignons, tout ce qui résulte de la cueillette, etc. Et là, ce qui est difficile, c'est qu'il y a tout un ensemble de ces productions qui sont non marchandes, en fait, qui sont juste utilisées pour de la consommation privée. Donc sur la partie marchande, là aussi, on a des statistiques, donc on sait que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par an qui sont commercialisés de ces produits. Mais en fait, la partie non commerciale est beaucoup plus importante. Donc l'estimation est plus dure, mais on estime à plusieurs centaines de millions d'euros par an la valeur de ces produits.
Et puis, il faut tenir compte de tout un ensemble de services rendus par la forêt aux activités humaines, de manière très indirecte. Elles sont incontournables dans le cycle de l'eau, par exemple. Une forêt, c'est un peu comme une usine de retraitement des eaux usées. On peut évaluer sa contribution, là encore, de manière indirecte.
Et puis, à côté de ça, il y a tout un ensemble d'autres services écosystémiques sur lesquels on a des méthodologies hein, pour les estimer, mais qui sont naturellement, qui sont naturellement imparfaites. Par exemple, il y a le rôle des forêts dans le cycle de l'eau, qui est importante, puisque les forêts jouent en quelque sorte un rôle de filtre, et donc permettent de réduire les besoins de traitement des eaux pour qu'elles soient ensuite utilisables. Donc pour ça, par exemple, on utilise des méthodes qui s'appellent la méthode des coûts évités. Donc en fait, ce qu'on va faire schématiquement, c'est qu'on compare les coûts de traitement des eaux d'une zone dont le bassin versant passe par une forêt, et puis le coût de traitement des eaux d'une autre zone comparable, mais qui n'a pas cette forêt pour jouer le rôle de filtre. Et donc on compare un petit peu les coûts de traitement pour avoir une évaluation un petit peu de ce service. Si on s'intéresse aux services récréatifs de type randonnée, il y a des méthodes de type méthode par les coûts de déplacement, où ce qu'on cherche à estimer, c'est combien les usagers sont prêts à passer de temps pour aller dans les forêts pour randonner, par exemple. Et comme le temps, c'est de l'argent, en fait, on est capable de convertir le temps passé pour aller randonner à travers la distance et une valeur que donnent les usagers. Donc, les économistes ont tout un ensemble de méthodologies comme ça pour essayer de contourner le problème de cette évaluation des services écosystémiques avec des mesures qui sont plus ou moins précises suivant les services qu'on considère.
Dans les forêts comme dans les océans, auxquels Splash avait consacré un épisode, on retrouve ce même problème. Les services rendus par ces biens communs aux activités humaines sont vitaux, mais très difficiles à évaluer monétairement. Pour certains biens communs, il y a une contradiction manifeste entre l'usage marchand et les services écosystémiques. C'est le cas de la haute montagne, par exemple. Implanter des stations de ski, ça signifie modifier le paysage et dégrader des écosystèmes. C'est moins le cas en forêt. Bien sûr, planter une seule essence sur des kilomètres carrés pour en faire une plantation rentable, ce n'est pas la même chose que de préserver la biodiversité. Mais dans ce deuxième cas, comme on l'a vu, la conservation des forêts ne signifie pas qu'on ne s'en occupe plus du tout. Et on peut avoir plusieurs objectifs à la fois pour la gestion de ces biens communs. Créer de la valeur marchande, mais aussi préserver des usages gratuits et récréatifs, ou encore préserver un capital naturel très précieux. On peut choisir l'un de ces objectifs, celui qui paraît peut-être le plus important de nos jours. Comment les forêts peuvent-elles contribuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Là aussi, le travail des économistes, comme Philippe Delacôte et ses collègues, peut être utile. Ils ont construit un modèle baptisé FFSM qui permet de quantifier ça.
Il y a deux manières dont la forêt peut contribuer à la lutte contre le changement climatique. Le premier, c'est la séquestration du bois en forêt. Donc le bois, quand il grandit, séquestre du carbone et ça contribue à la lutte contre le changement climatique. Et puis l'autre, c'est ce qu'on appelle l'effet substitution. Donc c'est-à-dire que c'est en exploitant le bois en forêt et en consommant des produits bois, ça va nous permettre de moins consommer d'autres produits polluants et donc on substitue des produits plus émetteurs de gaz à effet de serre par du bois qui est moins émetteur de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces deux leviers d'atténuation, il y en a un, la séquestration, on a plutôt intérêt à réduire l'exploitation du bois en forêt, et puis l'autre, la substitution, on a plutôt intérêt à l'intensifier. Donc nous, ce que le modèle peut faire, c'est comparer finalement quel levier peut être préférable en termes de bilan carbone. Et ce qu'on a montré, par exemple, c'est que si on s'intéresse à un horizon donc entre aujourd'hui et dans une vingt-trentaine d'années, on montre qu'il est préférable de se focaliser plutôt sur le levier de séquestration plutôt que sur le levier de substitution. Pourquoi ? Parce que si on met une subvention pour davantage d'exploitation du bois en forêt, par exemple, on va fortement déstocker, on va fortement réduire le stock de carbone en forêt. Et ce stock de carbone, il va mettre du temps à être compensé par l'effet de substitution, donc par le bienfait de substituer des produits non bois polluants par des produits bois moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir avec le modèle.
Alors, en définitive, que faire de toute cette surface du territoire français occupée par des arbres et des taillis ? Premièrement, on peut encourager davantage la gestion commune des forêts privées via des associations syndicales qui permettent aux propriétaires d'être bien conseillés et d'éviter que chacun ne délaisse sa petite parcelle. Deuxièmement, on peut encourager la production de bois là où elle s'avère pertinente, parce que la France a des ressources encore peu utilisées et que ce matériau a de l'avenir. Troisièmement, on doit mieux mesurer la valeur des services que rend la forêt, que ce soit pour la préservation de la biodiversité, le climat, ou même la conservation de paysages et d'environnements tout simplement beaux. Splash est une émission écrite et présentée par moi, Emmanuel Martin, produite et montée par Marine Rowe, enregistrée et mixée à l'arrière-boutique studio, coordonnée par Mathilde Jeunin. Splash est une production Nouvelles Écoutes. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et les références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission. Envoyez-nous vos idées et vos questions sur nos réseaux sociaux, on est preneurs. À la semaine prochaine !